Bonjour chères auditrices, bonjour chers auditeurs, je m'appelle Audrey Céron et bienvenue sur la fréquence Fort et Clair, le podcast des jeunes IHEDN. Pour ce nouvel épisode Fort et Clair, nous retrouvons Anaë Delaunay au micro. Bonjour Anaë, tu travailles au GICAN et tu es étudiante en sécurité internationale à Sciences Po. Tu es aussi membre du comité Moyen-Orient et Monde Arabe et chargée de mission MOMA au sein de Fort et Clair. Ton invité aujourd'hui est Alexis Constantinou, cofondateur et PDG de Focina, une start-up française innovante dans les technologies de détection par fibre optique. Anaë, à toi le micro.
Alexis, j'espère que vous allez bien.
Bonjour Anaë, très bien, merci.
Pour débuter ce podcast sur les câbles sous-marins et la fibre optique, je vous propose de vous présenter en quelques mots rapidement, s'il vous plaît.
Très bien, je suis Alexis Constantinou, cofondateur et PDG de Focina, une jeune start-up spécialisée dans les capteurs répartis à fibre optique. J'ai un background, on va dire, d'ingénieur. Je fais une classe préparatoire suite au bac. Ensuite, j'ai fait une école d'ingénieur télécom à Saint-Étienne avec une spécialité en optoélectronique et photonique avec le laboratoire Ubercurien. Et après, j'ai rejoint en tant que stage une entreprise de services pétroliers qui s'appelle Schlumberger, qui maintenant s'appelle SLB, pour me spécialiser en fait dans les capteurs répartis à fibre optique. Et par la suite, donc, j'ai créé Focina en 2020.
Et comment cet attrait pour le monde maritime est venu?
Alors le monde maritime, c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est pas quelque chose en fait d'inné au départ dans les capteurs répartis à fibre optique. Les capteurs répartis en fait s'utilisent un peu partout. Nos technologies peuvent s'appliquer un peu partout dans toutes les applications, que ce soit dans le terrestre ou dans le maritime. Maritime en fait, c'est parce que une des applications clés dans notre technologie, pour notre technologie, c'est la surveillance des câbles éoliens offshore. D'où en fait la liaison avec le maritime. Et petit à petit en fait, plus on apprend ce qu'on peut faire, en fait, les possibilités de nos capteurs, plus on trouve d'applications comme par exemple la géoscience, l'écoute des tremblements de terre, etc., par le biais des câbles déployés dans nos fonds marins.
Pour que ce podcast soit compréhensible pour tous nos auditeurs, je vais vous demander, je sais que c'est assez difficile, d'expliquer ce qu'est la fibre optique. Et qu'est-ce que sont les capteurs en fibre optique?
La fibre optique, tout le monde la connaît parce que tout le monde en a un pour Internet, donc pour la télécommunication. Donc aujourd'hui, si vous prenez par exemple le long des voies ferrées, vous avez des dizaines de milliers de fibres optiques, de kilomètres de fibres optiques qui sont déjà déployés que pour la télécommunication. Dans nos fonds marins, c'est pareil. Pour de la télécommunication, vous avez des longs câbles transatlantiques, etc. Et donc aujourd'hui, ça permet en fait le transfert de données, donc d'informations. Ça peut être des images, ça peut être des communications téléphoniques. Et donc ça transfère en fait à la vitesse de la lumière énormément de données. Donc ça, c'est ce que fait la fibre, sachant qu'une fibre optique aujourd'hui, je ne sais pas si vous en avez déjà vu une personnellement, mais en fait, c'est un brin contre, par exemple, si on parle d'océan, contre, par exemple, une ancre de bateau qui vient endommager le câble, etc. Donc en fonction des endroits où vous déployez cette fibre, vous avez une gaine différente. Par exemple, dans un puits pétrolier, vous voulez en fait de la haute température, de la haute pression, donc vous allez avoir une gaine différente que dans les fonds marins, où vous avez des contraintes en fait différentes. Donc tout ça pour dire, une fibre optique, c'est quelque chose qui aujourd'hui en fait est utilisé tous les jours par tout le monde. Et dans les fonds marins, c'est surtout utilisé par les banques, par les opérateurs et par aussi les éoliennes. Pour transférer le courant, vous avez aussi de la fibre optique pour de la télécommunication. Alors, je n'ai pas parlé encore des capteurs, de comment on utilise la fibre optique de notre côté. En fait, à partir du moment où vous connectez notre boîtier, donc on appelle ça une sorte de calculateur ou d'interrogateur, en bout de fibre, vous convertissez cette fibre optique pas que en tant que moyen de télécommunication, mais en tant qu'un réseau continu de capteurs de température, de déformation et acoustique vibratoire. Donc c'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez savoir en temps réel, sur un câble qui fait des dizaines de kilomètres, au mètre près, quelle est la température à quelques degrés près, ou même dizaines ou centaines de milliers de degrés près, en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
À quoi ces informations qui sont issues des capteurs vont servir pour l'entreprise qui va poser ses câbles, qui va utiliser ses câbles, mais aussi pour l'utilisateur final, qui va être le grand public, par exemple?
Ça aide les deux parties. Donc ça aide les câbliers, ceux qui déploient le câble. Pourquoi ? Parce que ça permet en fait, notre solution permet de surveiller l'intégrité du câble durant toute sa vie. Donc, c'est-à-dire que si vous avez une durée de vie, on va dire, du câble qui fait 25 ans, on va dire, eh ben, l'idée, c'est de voir un peu comment évolue la contrainte, la déformation sur ce câble. Et par exemple, si vous avez un glissement de terrain le long de vos océans, une plaque tectonique qui bouge, eh ben, finalement, vous allez avoir un déplacement de ce câble. Si vous avez une ancre de bateau qui vient en fait endommager ce câble, eh ben, l'idée, c'est de pouvoir surveiller ça en temps réel sur toute la longueur du câble pour voir s'il y a de la maintenance à faire. Et après, donc, sur l'autre aspect, utilisateur, bah, c'est intéressant aussi. Pourquoi ? Parce que, par exemple, il y a énormément de scientifiques qui, même des usagers, on va dire, qui sont impactés par des tremblements de terre, par exemple, ou des tsunamis. Et l'idée, c'est d'utiliser cette fibre pour détecter de manière beaucoup plus distribuée, on va dire, répartie, les tremblements de terre en temps réel.
Donc là, j'ai l'impression qu'on parle vraiment du côté un petit peu sécurité-sûreté de oui. ces câbles sous-marins. Est-ce que vous, en tant que Faucina, vous travaillez avec des gardes-côtes ? Quelle est votre approche avec le côté sûreté, justement, des côtes ? Alors, on parle de parc éolien, donc plutôt en Atlantique.
Alors nous, en tant que Faucina, donc nous, on est une jeune start-up. On est focalisé vraiment dans le développement de ces technologies qui permettent, on va dire, de capter et de transformer ce câble à fibre optique standard de télécommunication en un capteur, en un réseau de capteurs continus de température, des déformations, d'acoustique, vibration. Et donc, du coup, nous, on n'a pas pour vocation, on va dire, de déployer personnellement, on va dire, cette technologie partout dans le monde. On fait des partenariats, que ce soit dans la sécurité, etc., avec soit des intégrateurs, soit des partenaires qui, en fait, acquièrent des données et vont vendre cette donnée, on va dire, à certains clients. Et donc, bah, pour la sécurité, vous avez raison. C'est-à-dire, par exemple, si je prends la sécurité aux frontières ou le long de clôtures, on va dire, de sites protégés, sensibles, eh ben, vous pouvez avoir cette fibre qui est déployée, on va dire, le long de ce périmètre, que ce soit en mer ou en terre. Et en fait, notre client va utiliser notre système un peu comme une caméra de surveillance, on va dire, hein, ou un drone, pour finalement bah, utiliser notre système et surveiller son périmètre en temps réel, 24h/24, et si possible, y appliquer, on va dire, de l'intelligence artificielle pour pouvoir différencier, par exemple, bah, quelqu'un qui marche ou quelqu'un qui nage, on va dire, le long de la fibre, de quelqu'un qui creuse un trou, de quelqu'un qui conduit une voiture ou qui conduit un bateau, on va dire.
J'aimerais revenir sur le fait que vous exportiez à l'étranger, etc., votre activité un petit peu hors du territoire français et aussi votre position en tant qu'industriel français, puisque donc, Marseille est un hub un petit peu des câbles sous-marins en Europe, puisqu'il relie les trois continents qui nous bordent. Est-ce que ça vous donne une position un petit peu particulière sur le marché dans ce genre de technologie, puisque la France est quand même assez bien placée pour ces câbles-là sous-marins. Voilà, comment, en termes de coopération, comment vous positionnez au sein de l'Europe, un peu plus loin aussi ?
Alors, on est assez fiers d'une chose déjà, c'est qu'on est une entreprise française. Et toutes nos technologies, y compris les cartes électroniques, tout ce qui est optique, etc., à l'intérieur de notre interrogateur, est fait en France. Et d'ailleurs, vous êtes dans les locaux en ce moment même où tout est produit. Et donc ça, c'est une certaine fierté parce qu'en fait, on a une technologie qui est assez disruptive, qui est faite en France, donc qui peut bénéficier en fait, qui peut faire bénéficier énormément en premier lieu la France. Donc du coup, pour répondre à votre question par rapport à Marseille, etc., oui, c'est sûr qu'il y a des applications comme la surveillance des ports qui peut être une application assez intéressante. Et donc du coup, bah, ça, c'est par le biais de nos partenaires qui vont intégrer et déployer nos technologies, on va dire, entre autres pour ces applications. Et ça peut être pour des ports, ça peut être pour des parcs et la protection de parcs éoliens, etc. Et donc après, l'endroit où cette technologie est déployée, alors ça peut être intéressant parce que de temps en temps, on va dire, vous avez des câbles qui peuvent relier différents pays, qui peuvent relier différentes structures, etc. Donc après, la question, c'est où est-ce que vous connectez finalement ce boîtier ? Qui est-ce qui le connecte aussi ? Est-ce que quelque chose est déjà connecté dans les câbles qui existent, etc. ? Tout ça, c'est des questions qui finalement sont assez intéressantes. Pourquoi ? Parce qu'on ne maîtrise pas forcément, on va dire, dans le monde, qui fait quoi avec les câbles, dans le sens où vous avez énormément de pétroliers, par exemple, aujourd'hui, qui possèdent des ombilicaux, on dit ça, des câbles ombilicaux, qui permettent de transférer le pétrole, etc., le gaz dans les fonds marins. Vous avez aussi des éoliennes, comme j'ai dit. Et en fait, ces câbles-là ne sont pas des câbles de télécommunication, mais ce sont des câbles où il y a de la fibre optique et donc où peut être déjà raccordé notre type de technologie. Mmh. Et d'ailleurs, où elles sont déjà utilisées.
Donc la majorité des informations aujourd'hui passent par ces câbles sous-marins. Mais on a aussi des réseaux satellitaires. Et en fait, je voulais savoir quels étaient les avantages et les challenges de ces câbles sous-marins par rapport à un réseau satellitaire de communication.
Et alors moi, j'ai une stratégie qui est de dire que c'est complémentaire. Pourquoi ? Parce que je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, pour les pipelines, on utilise notre fibre pour détecter les intrusions le long des pipelines, mais aussi la détection de fuite. Et en fait, au départ, il y a plusieurs dizaines d'années, quand on a commencé à créer cette application, les opérateurs nous disaient « Ah ben oui, mais vous êtes en train de tuer, par exemple, les caméras de surveillance ou bien les gardes qui vont faire des surveillances, etc., le long des pipelines. » Mais en fait, non, c'est complémentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez utiliser la fibre pour détecter en temps réel tout le long de la fibre, ce qui se passe. Mais la plupart des opérateurs et des clients aiment la redondance. Et donc, détecter une première alarme par la fibre optique, c'est une chose. De vérifier cette alarme, soit par un drone, soit par une caméra de surveillance, etc., c'est une deuxième chose. Et c'est un peu le même concept, sur les câbles à fibre optique, parce qu'il n'y a pas de magie, vous n'avez pas de fibre, vous n'avez pas de capteur chez nous. Donc, si vous voulez faire, couverture satellitaire, d'un endroit particulier, il faut un satellite. Et donc là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire c'est une certaine complémentarité. Vous allez pouvoir capter, ce qui se passe en fonction de où est déployé ce câble.
En effet, j'aimerais maintenant parler du côté cyber, du risque de cybersécurité, puisque nous savons que les réseaux satellitaires, ils sont grandement exposés. Mais qu'en est-il des réseaux de câbles sous-marins ?
Alors, il y a deux aspects au niveau cyber. C'est déjà la protection des données. C'est-à-dire qu'un jour, on m'a posé une question... quelqu'un a découvert ce qu'on faisait, il m'a dit, mais ça veut dire que si vous mettez une fibre dans une pièce, vous pouvez écouter des conversations, etc. Mais oui, c'est sûr qu'on peut entendre la musique, par exemple, les voix, etc. Par contre, dire c'est telle personne avec tel nom, tel prénom qui a parlé, ça, c'est autre chose. Après, vous avez un bon point aussi, et c'est valide pour la plupart de nos clients, c'est la protection des données qu'on acquiert avec notre solution. Beaucoup de nos clients nous disent on ne veut pas que nos données aillent sur le cloud pour des raisons diverses et variées. Et donc du coup, la solution qu'on a apportée, c'est que à partir du moment où notre client possède l'interrogateur, les données sont toutes traitées en temps réel et visualisées localement. C'est-à-dire qu'en fait on est agnostique, on n'a pas besoin d'aller sur le cloud, etc., pour transférer des données et les traiter. Tout est fait au niveau du boîtier qui est connecté à la fibre. Et donc, du coup, ça permet aussi de protéger, ce qu'on fait des données, ce que le client fait des données, etc. Il y a un dernier aspect au niveau cybersécurité, c'est est-ce que quelqu'un qui, finalement, a cette possibilité d'interagir avec le câble peut piquer des données. Ça, je pense que c'est plus un sujet aussi à part entière et qui est couvert, qui ne concerne pas que nos technologies, Ça concerne tout type de technologies liées à la fibre optique pour de la télécommunication, par exemple. Donc, tous les opérateurs, de télécommunication ont ce problème. Nous, l'avantage, c'est que finalement, la fibre optique, ce n'est pas ce qu'on fabrique, ce n'est pas notre cœur de métier. Au contraire, on n'en fabrique pas, on se raccorde à des câbles existants. Et donc, notre préoccupation et notre priorité numéro un, c'est de maîtriser les cybersécurités de notre interrogateur, de notre boîtier. Et après aussi, d'aider, les opérateurs à mieux détecter, quelqu'un qui va toucher le câble ou quelqu'un qui va essayer d'interagir avec ce câble. Donc ça, on peut l'aider là-dessus. Donc c'est, des approches qui permettent d'adresser cette notion de cybersécurité.
À vous entendre, j'ai un peu l'impression que vous avez le rôle du sous-marin qui écoute ce qui se passe, mais qui ne voit pas forcément.
Du sous-marin. Alors, je ne m'y connais pas du tout en sous-marin personnellement. Vous pouvez considérer, c'est un peu une définition qu'on a quand on présente notre technologie, vous pouvez un peu considérer la fibre optique avec notre solution comme une antenne. Donc ça veut dire que oui, une antenne, ça permet, de voir ce qui se passe, d'écouter, ce qui se passe autour. Mais oui, vous avez raison, c'est pas une caméra. Après, ça peut être complémentaire. Et à nouveau, ce qui est très important, c'est de dire que la fibre est le capteur. Donc, si vous n'avez pas de fibre déployée à un endroit particulier, vous verrez pas. Vous entendrez pas.
Et je ne sais pas si vous avez un message à nous faire passer en tant qu'auditeur de Forêt Claire.
Un message pour les jeunes générations, très important pour moi personnellement, c'est de trouver les prochaines générations qui vont faire fonctionner nos entreprises, qui vont reprendre la passation, etc. Et donc, ces générations-là, elles sont très importantes de trouver, ce qui est très important, c'est de trouver des jeunes qui sont passionnés, Et donc, pour être passionné, c'est vrai qu'un très bon moyen, c'est de faire ce que vous faites, c'est-à-dire de prévoir ces podcasts, de faire ces interviews, etc., pour mieux comprendre, on va dire, le métier de chacun. Et la deuxième chose, c'est aussi de faire des études et d'être très technique. Pourquoi ? Parce qu'on est reconnu, je pense, sur le territoire français pour notre technique, pour notre aspect scientifique. Et ça, c'est très important pour la souveraineté nationale de continuer dans cette direction. Appel à tous les jeunes passionnés de capteurs à fibre optique et puis d'électronique, etc. Bah, n'hésitez pas en tout cas à venir à notre rencontre et puis découvrir ce qu'on fait. On accueille avec plaisir les jeunes pour des workshops ou des formations, que ce soit en école ou en université, pour mieux expliquer en fait les différents domaines d'application que peut couvrir une entreprise comme la nôtre.
La boîte aux lettres au CV est ouverte ?
La boîte aux lettres au CV est ouverte, grande ouverte même, parce que comme je vous ai dit, il y a énormément d'applications qui se créent chaque année. Donc nous, on est fiers de créer, on va dire, des emplois, on va dire, chaque année pour développer cette technologie et les différents domaines d'application. Donc la boîte à CV est ouverte et n'hésitez pas d'ailleurs à visiter notre site pour candidater si besoin.
Et sur cette note très prometteuse, je vous propose de conclure l'épisode. Merci beaucoup Alexis pour votre accueil et pour les réponses que vous nous avez proposées.
Merci Anaë, c'était un vrai plaisir de vous recevoir ici dans nos locaux et puis pour cette interview.
Merci à tous les deux, merci à Anaë Delaunay, chargée de mission Moyen-Orient et Monde Arabe au sein de Fort Éclair, et merci à Alexis Constantinou, cofondateur et PDG de Focina. Si vous voulez suivre tous nos podcasts, n'hésitez pas à vous abonner à Fort Éclair.